Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Éclairage est aujourd'hui consacré à l'Europe et plus précisément à la question des frontières de l'Union européenne. Une question sensible, comme vous le savez, un argument utilisé par les adversaires du traité constitutionnel et au fond le principal débat au cœur de l'avenir de l'Europe. L'Europe semble trébucher devant la nécessité de fixer ses propres limites géographiques. Comment est née cette question? Que signifie-t-elle? Qu'implique-t-elle? C'est ce que mon invité va contribuer à éclairer pour nous. Mon invité, Monsieur Jean-Dominique Giuliani. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez fondé en 1992 et dirigé la Fondation Robert Schuman, que vous présidez aujourd'hui depuis l'an 2000. Et vous avez prononcé, à l'automne 2005, le 27 et le 28 octobre précisément, une conférence à Washington sur le thème de l'Europe. Monsieur Giuliani, un mot d'abord sur le cadre de cette conférence.
Oui, c'est dans le cadre de relations transatlantiques régulières entre différents laboratoires d'idées, comme on les appelle aux États-Unis, et qui sont ces fameux think tanks, cercles de réflexion, laboratoires d'idées, réservoirs d'idées, qui permettent aux États-Unis, à côté du monde universitaire, pas encore dans le monde public ni dans le monde privé, de développer des réflexions et des travaux particulièrement approfondis sur toutes les grandes questions du monde. Et l'Europe figure parmi les sujets les plus étudiés aux États-Unis, à la fois sur le plan théorique, mais aussi sur le plan concret.
Alors, nous sommes heureux de l'apprendre. Venons-en donc à cette question des frontières de l'Europe, qui était le sujet de votre intervention à Washington. Pourquoi l'Europe a-t-elle connu depuis 55 ans une extension géographique? Pourquoi un tel élargissement? Qu'est-ce qui attire les nouveaux membres vers les anciens membres des 15, si je puis dire? L'élargissement s'est opéré en plusieurs étapes et vous dites, alors je reprends votre expression car j'aimerais que vous nous la développiez un peu, l'Europe est devenue comme un aimant doré. Alors qu'est-ce qui attire en Europe?
Écoutez, ce sont d'abord les succès de l'Europe. En réalité, on a tendance un peu à les oublier, surtout en Europe d'ailleurs, puisque si on regarde dans une perspective historique et de manière objective et approfondie quelles étaient les situations de nos différents pays membres de l'Europe au cours, par exemple, du XXe siècle ou du XIXe siècle, on s'aperçoit des progrès considérables et de la rupture qu'a constitué après le second conflit mondial, le pire de tous ceux que nous avions provoqués sur notre continent, de cette rupture qu'a constitué l'unification de l'Europe, son unification juridique, son unification progressive sur le plan économique et son unification timide, mais néanmoins réelle, sur le plan politique.
Sur le plan identitaire, même presque, mais on y reviendra sans doute.
Certainement, sur le plan identitaire, il y a beaucoup à dire. Mais d'abord, l'Europe unifiée, ou le processus d'unification européenne, c'est 5 ans après la fin des combats en Europe, en 1945, donc 5 ans après la déclaration de Robert Schuman, qui marque une rupture politique et historique absolument fondamentale, qu'on célèbre d'ailleurs partout dans le monde, et spécialement hors d'Europe, ce qui m'a beaucoup surpris, avec une rupture avec le passé, sur un principe très simple. Cela fait des siècles que les nations d'Europe, qui se sont construites essentiellement et juridiquement au XIXe siècle, mais qui existaient auparavant sous d'autres formes, s'affrontent, se livrent à des conflits de plus en plus meurtriers. Il faut donc rompre avec ce mouvement que, par exemple, en dehors d'Europe, on considérait comme inéluctable pour l'Europe. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de créer entre les différentes nations, les différentes patries, les différentes ethnies, même présentes en Europe, des liens concrets suffisamment forts que finalement la communauté des intérêts l'emporte sur les poisons des divisions. Et cette analyse finalement très simple et extrêmement, j'allais dire, basique,
oui.
en quelque sorte, que Robert Schumann lance sous une forme apparemment anodine, constitue une véritable révolution et le point de départ d'un succès, je dirais, foudroyant. D'abord sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique, parce que l'objectif de pacifier le continent européen est atteint en à peine une dizaine d'années, alors que personne n'imaginait.
C'est un exploit dont en France, on n'a peut-être pas assez conscience, en effet.
On
le dit, mais on l'oublie,
que,
oui.
Comme souvent, les peuples ont bénéficié, engrangé, en quelque sorte, une sagesse tardive, mais néanmoins réelle, tous ces bénéfices économiques qu'on a vus, par exemple, dans notre pays, qu'on a pu toucher du doigt en termes de niveau de vie, si l'on compare la manière de vivre de nos grands-parents, de nos parents,
ce n'est pas
de
si
nous-mêmes
loin.
Et de nos enfants, on mesure à quel point les standards de vie ont évolué, et sur tous les domaines, dans tous les domaines, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient financiers, qu'ils soient en termes de sécurité, on s'aperçoit des résultats positifs. Le premier succès de l'Europe économique, basée sur ces solidarités concrètes qui doivent elles-mêmes générer la sagesse politique, c'est la création de ce grand marché unique dont on sous-estime l'impact économique. Aujourd'hui, c'est 456 millions de consommateurs. L'Europe des 25, c'est le plus grand marché de consommation du monde par le pouvoir d'achat. Et ça va le rester pour très longtemps. C'est aussi un mécanisme inéluctable d'effacement des frontières internes qui crée un commerce intérieur à peu près identique à ce qu'ont connu les États-Unis au moment de leur formation. C'est-à-dire qu'on estime qu'une économie de taille mondiale ne peut se créer qu'avec, en quelque sorte, une arrière-cour,
oui.
un marché domestique suffisamment fort pour pouvoir créer des entreprises, supporter des investissements technologiques et de recherche suffisamment importants pour pouvoir créer les emplois de demain. Le grand marché intérieur qui s'est réalisé uniquement dans les années 90, on se souvient de l'acte unique européen de 1992 de Jacques Delors, a créé plus de 3 millions d'emplois en Europe. La Commission dit 2,5 millions, c'est-à-dire pour la France près de 300 000 emplois directement. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier.
Ce qui attire déjà, donc, puisque vous parliez de l'Europe comme d'un aimant doré, ce qui attire, ce sont les succès, aussi bien au niveau du niveau de vie que des mécanismes de solidarité, que de la paix, des succès politiques de l'Europe. Alors, cet élargissement, puisque là maintenant on est dans le grand élargissement, il s'est opéré en plusieurs étapes depuis sa création, donc depuis le traité de Rome en 1957. Vous dites en 6 fois, donc on est passé de 6 membres à 27 membres, et de 80 millions à 456 millions d'habitants. Est-ce que cet élargissement avait été voulu, envisagé par les pères fondateurs, et notamment par Robert Schumann, au nombre que nous atteignons maintenant ?
Pour être franc, oui. D'ailleurs, Robert Schumann l'a écrit dans les années 1963. On a retrouvé des documents de cette nature. Le général de Gaulle lui-même avait évoqué cette question en parlant de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Beaucoup d'hommes politiques qui essayaient de se projeter dans l'avenir avaient envisagé la fin du rideau de fer, et notamment la réunification de l'Europe qui, à mes yeux, correspond à l'élargissement du 1er mai 2004. C'est-à-dire que l'Europe à 25, telle qu'elle se dessine aujourd'hui, on pourrait rajouter la Roumanie, la Bulgarie, c'est une Europe continentale qui peut effectivement encore être un peu rectifiée ici ou là, notamment au niveau des Balkans, qui sont encore un peu en retard, mais c'est l'Europe historique, l'Europe culturelle, l'Europe politique aussi du 19e siècle, telle qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être s'il n'y avait pas eu ce rideau de fer et cette division de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, les nouveaux États membres, les 10 nouveaux États membres qui ont rejoint l'Union européenne en 2004, considèrent qu'ils réintègrent leur place naturelle en Europe et que les frontières actuelles de l'Europe correspondent à peu près à son identité.
Les frontières de l'Europe qui s'élargissent 25-27, est-ce que nous n'allons pas avoir pour l'Europe un risque d'obésité et donc un risque de déséquilibre ?
Oui, Les succès dont nous parlions, qui sont les succès de l'Europe, ont provoqué une accélération de l'élargissement. 1973, 1980, 86, 93, 2004, vous l'avez rappelé, l'Europe aura accueilli au moins un nouveau membre tous les 5 ans et demi, en quelque sorte. Commencée à 6, elle va bientôt compter 27 membres avec la Roumanie et la Bulgarie, qui devraient rejoindre l'Union le 1er janvier de l'année prochaine, peut-être un an plus tard. Elle est donc passée de 80 à 456 millions d'habitants. C'est très rapide.
Oui, c'est très rapide. Voilà. Et cette accélération provoque un problème,
d'ailleurs, dans l'opinion publique. Cela pose des interrogations qui sont très réelles au niveau du fonctionnement de l'Union. En changeant de dimension, l'Union européenne a changé de nature, en réalité. On ne délibère pas de la même manière lorsqu'on est 6 autour de la table, à peu près de même taille, ou en tout cas de même niveau de développement, que 27, avec surtout des niveaux de développement différents. Autant l'Europe était homogène, et relativement homogène à sa création, autant elle est devenue très hétérogène depuis...
Un peu patchwork.
Un peu patchwork, pour utiliser un mot qui n'appartient pas encore à la langue française, mais qui n'a pas d'équivalent, donc on peut le prononcer. Et on voit dans les chiffres et les statistiques, sans vouloir en abuser, combien cette hétérogénéité apparaît. Autant la hausse du niveau de vie, des standards de vie, s'est accrue à peu près de manière identique dans tous les pays fondateurs. Autant aujourd'hui, avec l'élargissement, on trouve, avec 20% de plus de population concernant le dernier élargissement, qui ne représente que 12% de PIB, de richesse nationale en plus, en fait, le nombre d'Européens vivant aujourd'hui dans les régions dites pauvres est pratiquement le double de ce qu'il était il y a encore 5 ans.
Donc plus on accueille de pays pauvres, plus évidemment le niveau général pour tout le monde, le niveau de vie baisse.
Oui.
Enfin, ça me paraît assez simple à comprendre.
C'est le premier mouvement.
Est-ce que c'est un mouvement
C'est le premier mouvement, mais l'effet d'accélération que produit l'intégration dans l'Union européenne a pour première conséquence de doper la croissance des nouveaux venus, les mécanismes de solidarité que vous évoquiez tout à l'heure et qui permettent d'aider les plus pauvres pour rejoindre un niveau moyen, celui des plus riches, c'est le cas aujourd'hui.
Est-ce que la capacité d'intégration de l'Europe est élastique indéfiniment ou est-ce qu'elle va finalement trouver des limites? Est-ce qu'on n'a pas atteint la limite, justement?
Oui, on sent bien qu'on est arrivé avec la question turque à toucher ses limites. Pour une raison simple, c'est que la Turquie n'est pas géographiquement et naturellement en Europe, même si elle a très envie d'y entrer. Et deuxièmement, la Turquie, à elle seule, représente un pays par la population et le territoire aussi grand que les 10 qui viennent d'adhérer en 2004. Et là, en fait, l'opinion publique a un peu poussé les responsables européens qui mécaniquement continuaient le processus d'élargissement sans fin, en quelque sorte, à poser la question des limites. Et on voit bien que c'est devenu un sujet politique central. Aujourd'hui,
absolument,
du débat politique européen, mais aussi des débats nationaux. Je crois que cette question turque, sans préjuger en rien de la nature de la Turquie ou de sa volonté de rejoindre l'Europe, en fait, pose la question des capacités d'intégration de l'Union qui, comme je le rappelais, est le quatrième critère de Copenhague, n'est-ce pas? Il y a 4 critères, avoir des institutions démocratiques, avoir une réglementation économique qui permet de participer au marché unique, et puis reprendre tout l'acquis communautaire. Le quatrième critère de Copenhague, c'est aussi la capacité d'absorption de l'Union. On voit que ceux qui les ont fixés, 1979,
se posaient déjà
la question.
Des questions.
Et nous sommes aujourd'hui au pied du mur, n'est-ce pas?
Alors, le projet constitutionnel de l'Europe, qui a été en France refusé, était à vos yeux urgent et impératif. Comment jugez-vous son échec et quelles sont les conséquences de ce refus, à vos yeux?
Écoutez, c'est très préjudiciable pour l'Europe d'aujourd'hui, dans la mesure où on l'a vu encore récemment, lorsque l'Europe doit décider de sujets difficiles. Son budget pour les 7 ans, les nouvelles politiques européennes, on fonctionne encore avec les règles des années 57, et chacun est sur un pied d'égalité. La petite Slovénie autant que l'Allemagne, Chypre a la même voie que la France. On voit bien que quelque chose ne tourne pas rond Chaque pays a droit à un commissaire qui représente donc un peu son pays, alors que c'est pas le rôle de la Commission. On voit bien que les institutions sont essoufflées.
Elles ont besoin d'être reprécisées.
Elles ont besoin d'être précisées. Elles ont besoin de relégitimer en quelque sorte une nouvelle démarche européenne avec des objectifs précis qui ne sont plus seulement économiques, qui doivent être aussi politiques, qui doivent être peut-être un peu plus démocratiques et tenir davantage compte de la nécessité d'expliquer en permanence ou de permettre de comprendre des mécanismes compliqués qui sont à plusieurs niveaux de représentation, puisque l'Europe procède des États membres, mais elle a aussi une existence en elle-même, puisque les États ont décidé de créer cette Europe et de lui confier certaines de leurs compétences étatiques. Il faut donc relégitimer tout cela, le redéfinir, le redessiner en quelque sorte et le reconceptualiser pour une Europe où il y a plus d'États, et tout en apportant les moyens à tous les citoyens d'Europe, qui sont beaucoup plus nombreux, de comprendre comment ça fonctionne, de s'approprier les décisions. Autant c'est facile en matière de protection de l'environnement, autant c'est difficile en matière sociale, en matière économique, voire en matière de défense et de sécurité.
Et effectivement, il semble que ces difficultés, finalement, ont l'air de générer, chez certains Européens du moins, un doute de la pertinence du projet européen même. Finalement, il n'y a pas seulement une méfiance, il y aurait aussi un doute. Est-ce que l'Europe serait légitime? Est-ce que, enfin, toute cette réinterrogation, est-ce qu'elle vous paraît venir à temps? C'est le moment de se poser des questions.
Écoutez, la conjonction de l'élargissement un peu rapide et sans fin, auquel on ne fixe pas de limites, et d'un nouveau monde économique que l'Europe doit affronter avec des règles anciennes, vient effectivement se superposer à des craintes et des peurs nouvelles. Besoin de sécurité, besoin de redéfinir la manière dont fonctionne l'économie, dont fonctionne la protection sociale, des questions fondamentales face aux grandes économies émergentes que sont la Chine, l'Inde ou le Brésil, où il n'y a pas de réglementation sociale aussi protectrice que les nôtres. Nous tenons au modèle européen, mais nous devons le confronter en permanence à un monde beaucoup plus concurrentiel et beaucoup plus compétitif.
Oui,
d'où
ça.
La peur des délocalisations, d'où d'ailleurs des mouvements de délocalisation réels aussi qui existent. On délocalise plus vers la Chine et l'Inde ou le Brésil que vers les pays de l'Est aujourd'hui. Mais c'est vécu, ceci est vécu par le citoyen européen qui désormais... à son mot à dire, beaucoup plus qu'avant, comme une sorte d'agression identitaire. À la fois, voilà. On ne sait pas où on s'arrête, où s'arrêtent les limites, on est habitué à avoir des frontières, et à la fois, on ne sait plus si les politiques sont vraiment bien adaptées, bien adéquates, face à un monde qui va encore plus vite que par le passé.
Est-ce que parmi ces peurs, vous comptez aussi la peur de l'immigration, par exemple ?
Écoutez, oui, incontestablement, elle est présente. Il y a, on le voit dans tous les pays de l'Union européenne, une réflexion qui est en cours ou qui ne va pas tarder à être conduite sur quelle politique d'immigration nous devons avoir. La population européenne vieillit beaucoup. C'est celle qui vieillit le plus au monde, même si elle est suivie par des pays comme la Chine, par exemple. Et donc, la moyenne d'âge des Européens, selon l'ONU, serait dans les années 2050 autour de 48 ans, alors qu'elle serait toujours de 38 ans aux États-Unis et, bien sûr, dans des continents comme l'Afrique, de 25 ou 26 ans. Donc, ce vieillissement de la population pose des problèmes économiques et sociaux considérables, change les modes de vie et nous oblige à penser et à conceptualiser une politique d'immigration différemment, c'est-à-dire qu'il faut l'anticiper, la prévoir, car nous avons toujours besoin de main-d'œuvre pour faire tourner la machine économique. Est-ce que nous allons continuer, comme par le passé, à laisser ces compétences-là aux seuls États membres et avoir une sorte de disparité entre toutes les politiques d'immigration, par exemple entre le Royaume-Uni, la France ou l'Allemagne? Ou bien, au contraire, est-ce que nous allons essayer de coordonner une politique d'immigration pour répondre aux besoins et en même temps accueillir correctement les personnes que nous laissons entrer en Europe? C'est vraiment une question qui touche à des sujets fondamentaux et qui suscite des peurs, des craintes, qui doivent avoir des réponses.
Alors, Jean-Dominique Giuliani, finalement, définir les frontières de l'Europe, est-ce que c'est possible ou impossible à vos yeux, actuellement?
Écoutez, oui. Je crois que c'est possible. Il y a en tout cas un faisceau convergent de critères, j'en vois au moins trois, qui devraient nous permettre de définir ses frontières. Et là, je m'inspire beaucoup de communications tout à fait prestigieuses que j'ai entendues à l'Académie des sciences morales et politiques, découvertes sur le site de Canal Académie, notamment celle de M. Casanova, M. Bechler, M. Besançon.
Oui, oui.
Bon. Si j'essaie de faire la synthèse de ces très importantes contributions qui m'ont vraiment éclairé, je dirais que l'histoire, la culture et la géographie sont les trois critères qui nous permettent déjà d'avoir une première idée. Jean Bechler a très bien montré comment l'histoire, comment l'Europe s'est construite grâce au pouvoir fédérateur de l'Église catholique romaine à ce moment-là, comment elle a traversé le Moyen-Âge en inventant un système autour de la féodalité, d'ailleurs tout à fait original, comment le siècle des Lumières a introduit de nouveaux critères scientifiques, rationnels, et que tout cela, finalement, se cantonne dans un territoire géographique tout à fait
précis,
déterminé,
oui.
qui correspond à peu près à l'Europe des 25 aujourd'hui.
Absolument.
Avec les Balkans, mais oui. Qui sont toujours en question. Bon. Il reconnaît lui-même, d'ailleurs, qu'une question se pose pour l'Ukraine.
Et pour la Russie, oui, c'est ça.
Et pour la Russie, qui ont toujours été attirés par l'Europe. Mais par exemple, pas pour la Turquie, qui s'est toujours constituée aux portes de l'Europe et plutôt contre cette Europe qui se construisait. En matière culturelle, c'est encore plus important, et sur votre antenne, je le dis avec beaucoup de modestie, compte tenu de tout ce que j'ai pu lire, des travaux qui ont été menés à l'Académie, c'est plus de 1000 ans d'évolution qui, en quelque sorte, se cristallisent à peu près sur le même territoire. Jean Bechler avait cette... je crois que c'était Alain Besançon qui avait cette formule, disant que finalement, l'histoire de l'Europe qui correspond à son identité telle que la ressentent les citoyens, c'est finalement l'Europe dont les limites sont celles de l'art gothique. Et lorsqu'on se promène aujourd'hui dans la Nouvelle Europe,
c'est vrai, on s'y retrouve.
Ce que je fais tout le temps, c'est vrai que l'art gothique va jusqu'au dans les pays baltes, bien sûr qu'il s'arrête aux frontières de la Pologne ou de la Slovénie, et que ce mélange entre pouvoir, savoir et religion, c'est vraiment un mélange et un précipité tout à fait original qui crée en quelque sorte une identité européenne. Sans vouloir en exclure qui que ce soit, tous les Européens s'y retrouvent. Enfin, bon, la géographie compte aussi. Le président Giscard d'Estaing lui-même a été tout à fait définitif sur ce sujet-là. Mais il est clair que les frontières ouest de l'Europe, on les connaît, c'est l'Atlantique. Les frontières nord, il n'y en a pas jusqu'au pôle Nord. Les frontières est sont un peu floues, mais les frontières sud sont tout à fait claires, c'est la Méditerranée.
C'est la Méditerranée, oui.
Et donc, ces trois critères dessinent une Europe à 27, peut-être à 33, avec les pays des Balkans, avec des incertitudes à ses frontières, Biélorussie, Moldavie, questions russes, qui sont plutôt en dehors de l'Europe, même si elles y sont très liées, mais qui, en aucun cas, ne peut s'élargir vers le sud, même si tous les responsables européens reconnaissent qu'il faut, entre l'Europe et les pays du sud, et notamment du nord de l'Afrique, ou du Moyen-Orient, des relations étroites.
Voilà, mais ça ne veut pas forcément dire une intégration.
Ça
peut y avoir d'autres formes, d'autres formules à inventer, peut-être. Alors, Jean-Dominique Giuliani, pour vous, l'avenir de l'Europe dépend-il de cette question des frontières ?
Écoutez, pas uniquement.
Pas uniquement.
Je pense que l'avenir du sentiment européen et la manière dont les citoyens vont devoir se réapproprier le projet européen dépend quand même, en partie, d'une réponse à cette question. Pour l'instant, on a le sentiment, un peu trop souvent, que la question des frontières n'est pas posée, et le mérite du référendum, du débat référendaire que nous avons eu, c'est d'avoir posé cette question. Il faut que maintenant les responsables commencent à y répondre. Personne n'attend des réponses immédiates. On comprend bien qu'il ne faut exclure personne a posteriori. Qui donc va aller dire aux Ukrainiens qui ont le sentiment de s'être libérés d'un joug russe, qu'ils n'ont rien à voir en Europe, qu'on ne veut pas en entendre parler, ce n'est pas cela. Il faut donc savoir développer avec les voisins de l'Europe des relations structurées. Ils ont besoin d'aide, d'assistance, mais ils ont pris en modèle notre système d'état de droit et de démocratie. Donc nous avons vraiment intérêt à ce qu'il irradie le plus loin possible. Bien sûr, nous ne parlons plus dans ces conditions d'adhésion. nous parlions de politique de voisinage, nous parlions
voilà.
de
c'est
relations.
Quoi la politique de voisinage? Justement, j'ai apprécié cette expression dans votre communication à Washington.
C'est un terme utilisé par la Commission européenne pour oui. définir la politique que, tardivement, on a mise au point pour pallier ce manque qu'il y avait voilà. entre... Pour l'instant, nous n'avions comme politique étrangère à nos frontières que de proposer l'adhésion. Et donc, nous suscitions d'immenses espoirs jusque dans le Caucase, bien sûr en Turquie, auprès de toutes les élites turques, par exemple, qui sont formées à la française ou à l'occidentale, qui souvent parlent notre langue. Ils nous regardent vers notre modèle oui, démocratique. Oui. Et nous n'avions à leur offrir que l'adhésion. Eh bien, la politique de voisinage, c'est une politique qui combine l'assistance financière, l'assistance juridique et aussi l'aide politique, en proposant, en suggérant que dans les grandes enceintes internationales, l'ONU, l'Organisation mondiale du commerce, les voisins de l'Europe puissent de temps en temps s'associer à elle sur des sujets importants, par exemple la lutte contre le terrorisme.
En étant voisin,
en
état
étant voisin,
voisin
voilà. sans y adhérer. Sans et donc avec de vrais liens politiques, avec aussi notre part de responsabilité financière, il faut savoir aider nos voisins les plus pauvres, c'est à la
oui,
fois
oui,
notre
c'est
devoir.
C'est l'intérêt de tout le monde.
Et notre intérêt bien compris. Et donc, cette politique de voisinage va avec une Europe politique plus concentrée sur ses frontières, aux frontières plus définies. Et on voit bien que là s'opposent plusieurs conceptions. Par exemple, la conception britannique n'est pas celle-là, puisqu'on nie l'existence politique, en quelque sorte, de l'Europe. Et après tout, on a une zone de libre-échange économique, tout le monde peut y adhérer, jusqu'à la Russie, la Turquie, l'Iran, ou même les pays du Maghreb. Ce n'est pas la conception des pères fondateurs, ce n'est pas la conception des pays fondateurs de l'Union européenne, et je crois que ce n'est pas la conception majoritaire des citoyens européens qui se sentent européens et qui, dès qu'ils prennent l'avion, ils le font de plus en plus souvent, se rendent en Amérique latine ou en Asie, voient très bien ce que signifie être européen. Ça ne veut pas dire rejeter les autres, ça veut dire les accepter, mais ça veut dire aussi assumer son identité.
Jean-Dominique Giuliani, dans cette pédagogie dont vous parliez tout à l'heure de l'opinion des Européens, quel est le rôle de la Fondation Robert Schuman que vous présidez?
Écoutez, elle fait deux choses essentiellement. Elle essaie d'être présente au nom de la France et de l'Europe et des Européens engagés chez tous ses voisins, nouveaux adhérents, futurs adhérents ou tout simplement voisins, en essayant de faire partager les convictions démocratiques qui fondent l'Europe, participer au rayonnement en quelque sorte de nos idéaux politiques. Et puis, elle a un double rôle en France et en Europe d'analyse approfondie, de publication d'études sur les politiques européennes, puisqu'on voit bien qu'un certain nombre de questions, celles des frontières, d'autres économiques ou sociales, sont vraiment aujourd'hui sur la table. Il faut donc y travailler, regarder quelles sont les différentes hypothèses, rappeler les chiffres, faire des études comparatives, ce que nous avons souvent tendance un peu à oublier, et qui quand même souvent permet de relativiser bien des difficultés dans bien des domaines.
Jean-Dominique Giuliani, puisque vous évoquez les ouvrages que vous publiez à la Fondation Robert Schuman, je préciserai pour nos auditeurs que vous-même, vous êtes l'auteur de deux ouvrages, Plaidoyer pour l'élargissement, avec un tel titre, on voit tout de même où vont vos idées, et Atlas des nouveaux membres, donc ces deux ouvrages sont publiés par la Fondation, et puis Le grand élargissement, est publié, lui, chez Albin Michel, et L'élargissement de l'Europe, que l'on peut reconseiller, c'est un petit que sais-je qui vient de sortir aux presses universitaires de France, comme tous les que sais-je, et qui doit certainement donner un résumé très précis de votre pensée. Il ne me reste qu'à vous remercier d'être venu sur Canal Academy, et remercier d'avoir défendu l'Europe aussi, et nous vous soutiendrons dans ce combat. Merci,
merci.
Jean-Dominique Giuliani.